Alors j'ai un peu hésité parce que il est vrai que on parcourt Ésaïe en temps normal et je me suis dit voilà on est à Noël et puis finalement je me suis dit non parce que j'ai regardé le chapitre suivant donc Ésaïe 49 et on retombe sur ce qu'on appelle un des chants du serviteur. En fait il y en a quatre dans Ésaïe, que les biblistes ont identifié. Nous avons déjà lu dans Ésaïe 42, il y a Ésaïe 49, puis on a un autre dans Ésaïe 50, et le mieux connu dans Ésaïe 53. Donc les quatre chants du serviteur. Le Nouveau Testament identifie bien ce serviteur comme étant Jésus, mais nous allons voir cela dans le texte. Ce que je propose d'abord, c'est de relire en fait le chapitre 42, les huit versets de ce premier chant, avant de lire le Ésaïe 49 que nous allons voir aujourd'hui, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses en commun, et surtout, la notion que le Messie annoncé, le serviteur annoncé, c'est pour le monde entier. Donc nous avons déjà dit que c'était un peu le thème de ce culte, hein, que toute la terre entonne un hymne à ton honneur. Alors je vais lire d'abord donc le chapitre 42, les versets 1 à 8, comme pour nous remémorer ce premier chant. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix dans les rues, il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas, ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice. Et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai. Je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations. Pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir des détenus de prison et de leurs cachots les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel. Voilà quel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Donc voilà le premier chant. J'ai un peu souligné la fin du verset 6, la lumière des nations. Et en même temps, il y a beaucoup d'autres choses pour dire que il fait grâce à celui qui se tourne vers lui. Donc maintenant, on revient au chapitre 49, qui est la lecture du jour. Et je vais lire donc les versets 1 à 7. Île, écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je ne suis fatigué. C'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc les deux fois, la lumière des nations. Si, au chapitre 42, le serviteur était un petit peu comparé à un roi, parce qu'on parlait beaucoup du fait qu'il allait rétablir la justice et le droit, dans ce deuxième champ, il est plutôt comparé à un prophète qui parle. Déjà, la petite évocation deux fois que l'Éternel a appelé dès le ventre de sa mère, c'est au verset 1, et puis c'est au verset 5, et ça rappelle d'ailleurs le prophète Jérémie, qui a dit la même chose, hein. Je vais juste le lire, Jérémie chapitre 1 et le verset 5. « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Donc on a encore « dès le ventre de sa mère et pour les nations ». Dans Jérémie. Donc, ce Messie, il veut être prophète. Pour le moment, on ne dit pas qui il est. On dit que cela concerne tous les peuples. Il commence en disant « Il, écoutez-moi ». Et quand on parlait des îles, c'était pour parler de toutes les îles de la Méditerranée. Donc, c'était au-delà de la terre d'Israël. Et on dit aussi qu'il a rendu sa bouche pareille à une épée tranchante. Donc le prophète, le rôle du prophète, c'est de parler. C'est le sens même d'ailleurs du mot prophète. Donc le prophète parle. Et cette parole qui est tranchante rappelle également ce verset dans Hébreux, chapitre 4. Hébreux 4 et le verset 12, qui dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc, on voit que l'auteur de cette épître aux Hébreux fait référence à ce deuxième chant du serviteur, et donc il dit « Ma parole ». Et qui est la parole? Dès le début de l'évangile de Jean, la parole c'est Jésus. Donc, on tourne autour de le fait que Jésus est prophète, tout comme il est roi et tout comme il est sacrificateur, parce qu'il parle et que sa parole est aussi tranchante qu'une épée à deux tranchants. Comme une flèche aiguë qui pénètre jusqu'à l'intérieur. Mais après, on a cette expression, tu es mon serviteur Israël. Donc, est-ce que le serviteur, c'est le peuple d'Israël? C'est ce que disent parfois les rabbins. Parce que quand ils lisent Ésaïe 53, ils voient le serviteur qui souffre comme étant le peuple d'Israël. Et donc, c'est une interprétation. Mais il me semble que ce n'est pas possible que ce soit le peuple d'Israël, parce que au verset 5, on dit bien que son but c'est de ramener Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. Le but de ce serviteur, de ce Messie, de ce Christ, est de ramener le peuple d'Israël. Donc ce n'est pas tout Israël. On peut dire en quelque sorte que ce serviteur est comme une incarnation parfaite d'Israël, le véritable Israël, qui mérite de porter ce nom. Donc ça c'est le Messie, qui est l'incarnation parfaite d'Israël. Et comme dans Ésaïe 53, on voit que ce serviteur sera rejeté, mais qu'il aura une récompense. Il dit au verset 4, « Est-ce que c'est pour rien que je ne suis fatigué C'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. C'est comme si Jésus à la croix disait, bah, ça ne sert à rien. Mais si, ça sert à quelque chose. Parce que la fin de ce verset dit, il y a quand même une récompense auprès de Dieu. Et quelle est cette récompense? Bon, le chant du serviteur dans Ésaïe 53 l'explique au verset 10. Il dit, l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. Et la descendance, en fait, ce sont tous ceux qui croient en son nom, qui peut appeler frère, hein, selon Hébreux chapitre 1. Et j'ai souvent cité les frères moraves au XVIIe, XVIIIe siècle, qui étaient les premiers missionnaires protestants, et qui avaient comme devise, et je trouve que c'est une très belle devise, gagner pour l'agneau la récompense de ses souffrances. Ça veut dire, en allant partir dans le monde entier pour que des personnes se convertissent, le sacrifice de Jésus avait de plus en plus de fruits, de plus en plus de descendance, c'était la récompense. Donc, sa souffrance servait à quelque chose. Ça servait à la rédemption, au rachat de tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Donc, on voit bien que la mission de ce serviteur est double. Et il explique bien au verset 5 et 6. Il dit que, bon, je vais relire ces versets, « Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur. Pour que, primo, que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. » Donc, premier but, c'est de faire revenir le peuple d'Israël à l'Éternel. La deuxième chose, le verset 6, il dit, « Est-ce que c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël? Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc c'est aussi pour apporter, comme je dis, le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce verset est cité dans le Nouveau Testament. On va le lire dans Actes 13. Le verset 47. Acte 13, verset 47. Paul se trouve à Antioche de Pisidie. Il va dans la synagogue, il annonce l'évangile et il y avait un certain nombre de juifs qui se convertissent. Et le verset 42 dit déjà que lorsqu'ils sortirent de la synagogue, les non-juifs les invitèrent à parler du même sujet. Et le verset 43 dit, quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de juifs et de non-juifs pieux, convertis au judaïsme, suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Donc, au salut. Mais, le sabbat suivant, il y avait un grand rassemblement et certains fidèles de la synagogue insultent, s'opposent à Paul, le contredisent, l'insultent, hein, c'est le verset 45, et Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, j'aime bien ce petit ajout, il est dire avec assurance, c'était à vous d'abord, donc à vous juifs, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné, et là, donc il cite Ésaïe 49,6, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le verset cité, Paul le cite pour justifier le fait qu'il se tourne vers les païens, donc les non-juifs. Et c'est pour cela, ça sert vraiment à quelque chose. Et le verset 7, donc le dernier verset de ce chant, dit que les souffrances du serviteur seront suivies de son exaltation. Je relis le verset 7. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète, à l'homme qu'on méprise, qui est fait horreur à la nation, l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Donc, le plan de Dieu est magnifique. Il fallait que ça passe par quelque chose d'extraordinaire, que la deuxième personne de la Trinité soit incarnée, on y pense à Noël, devienne être humain, comme nous, qu'il se dépouille en quelque sorte de son égalité avec Dieu. Donc c'est Philippiens 2 qui le dit, ça ne veut pas dire qu'il cessait d'être Dieu, mais qu'il a mis de côté les attributs de Dieu, sauf lorsque le Père lui permettait de les utiliser pour certaines, pour annoncer le pardon du péché à certains, pour guérir d'autres, etc. Mais il s'est dépouillé de son égalité tout en restant Dieu. Mais c'était absolument nécessaire. Il n'y a pas de salut autrement. Un Dieu unique, dans le sens monothéiste, strict, comme pour dans la religion juive ou la religion musulmane, il n'y a pas de pardon possible. Parce que comment pardonner, comment Dieu peut-il pardonner s'il n'y a pas justice à cause du mal? C'est impossible. Mais le Dieu trinitaire que la Bible révèle, c'est possible. Parce que Dieu lui-même vient sur la terre, souffre et meurt à notre place, justice est faite et Dieu peut pardonner. Mais après, il y a la résurrection et là, on dit que les rois se lèveront, les princes se prosterneront, tout genou fléchira devant Jésus à la fin du monde. Mais le but, en attendant, Paul l'a compris, Barnabas l'a compris, nous avons compris que il fallait aussi diffuser l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et que tous les peuples viennent à cette lumière. Et ne serait-ce que ce matin, il y a des personnes de plusieurs pays, de plusieurs nationalités qui sont là. Et voilà, on vit ensemble ce qui était annoncé dans Ésaïe 49, d'être ensemble ce matin, comme l'Apocalypse dit, toutes les langues, toutes les ethnies, toutes les nations, etc. Donc il y aura des rachetés pour adorer le Seigneur. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur ce... Là, je vais revenir en arrière. Le serviteur est un prophète, qu'il est Israël, la parfaite Israël incarnée. Il sera rejeté, mais il aura une récompense de tous ceux qui sont sauvés. Sa mission, c'est à la fois de faire revenir le peuple d'Israël à l'Éternel et apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et les souffrances du serviteur seront suivies de son exaltation. Ensuite, il y a tout le reste du chapitre qui est, je l'avoue, un chapitre assez compliqué, qui va un petit peu dans tous les sens. Et je voudrais tout simplement tirer quelques implications de la suite de ce chapitre sans tout lire, compte tenu de ce chant du serviteur au cours du premier verset. La première implication, c'est tout de suite au verset 8. Voici donc ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Donc, ce verset est cité dans 2 Corinthiens 6. Et je vais lire le contexte. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donc la première chose que l'on peut tirer de la suite de ce chapitre, c'est que si Jésus est le Sauveur, c'est qu'il faut quand même faire appel à lui pour demander le salut. Donc, et c'est maintenant, c'est aujourd'hui. L'Épître aux Hébreux le dit ailleurs, c'est aujourd'hui le jour favorable. Il n'est pas encore trop tard. Donc on continue à annoncer le salut autour de nous, parce que ce n'est pas trop tard. Mais il faut quand même le saisir, ce n'est pas automatique. Il faut mettre sa confiance en Dieu. Et à ce moment-là, au moment favorable, il répondra, il va secourir tous ceux qui font appel à lui. Deuxième chose, ce salut, c'est pour sortir des ténèbres. Ça, ce sont les versets 9 et 10. Je lis. C'est pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous, ils trouveront leur nourriture sous les chemins, des pâturages sous tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide et les conduira vers des sources d'eau. Donc, bien sûr, on parle souvent dans Ésaïe de la sortie, de la captivité, de la déportation à Babylone et après les Perses. Et souvent, c'est avec un langage qui rappelle la sortie de l'Égypte. Mais tout cela n'est rien par rapport à la vraie sortie des ténèbres, la vraie sortie de la prison, qui est l'Évangile, qui va venir par le moyen du serviteur souffrant. Il va dire « Sortez aux prisonniers, et nous ne sommes plus esclaves du péché. » Il va dire « Sortez des ténèbres. » Et Jésus dit « Je suis la lumière du monde, la lumière des nations. » Donc il faut sortir, c'est comme au verset 8, il faut saisir ce salut. Mais quand on saisit le salut, on sort de l'esclavage du péché, on sort des ténèbres, on sait où on marche, parce que Jésus est la lumière. Et par la suite, il y a beaucoup de clins d'œil, on va dire, qui nous rappellent que Jésus est le bon berger. Donc à ce moment-là, ils trouveront leur nourriture sur les chemins du pâturage, sur les sommets, ils n'auront plus faim. Celui qui a compassion d'eux sera leur guide, il les conduira vers des sources d'eau. Donc, à partir du moment où on appartient au Seigneur, il devient notre berger. Jésus est le bon berger. Et l'accomplissement parfait ne sera pas pendant cette vie. Parce que quand il dit au verset 10, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, la chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus, ça rappelle la fin de l'Apocalypse, donc la cité céleste, où il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de deuil. Donc, dans ces chapitres, on a comme une vaste fresque qui part de l'Égypte, comme étant un exemple de comment Dieu délivre son peuple, qui passe par Babylone, Dieu délivre son peuple, qui passe par l'Évangile, Dieu délivre ceux qui croient en lui pour leur salut, et qui aboutit à la fin du monde et les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la cité céleste où nous n'aurons plus faim, nous n'aurons plus soif, la chaleur brûlante ne nous frapperont plus. Donc c'est une vaste fresque en quelques versets. Et le résultat sera l'allégresse. Ciel, réjouis-toi. Terre, crie d'allégresse. Montagne, éclatez en cri de joie. En effet, l'Éternel console son peuple et la compassion des plus humbles de ses membres. Là, ce verset m'a parlé. Parce que je me suis dit, est-ce que je crie d'allégresse? Est-ce que je pousse des cris de joie? ou est-ce que je suis plus enclin à me plaindre de différentes choses? Alors que nous avons tout pour être dans la joie. Le verset qui revient continuellement dans le Nouveau Testament, c'est réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous en toutes circonstances, la joie et l'allégresse en quelque sorte, telle qu'on la comprend autour de nous, c'est quand les circonstances idéales sont réunies. Là, on peut être joyeux. Mais là, il dit non, nous sommes déjà au Seigneur. Nous sommes sauvés, on a un bon berger qui veille sur nous, qui va nous conduire tout au long de notre vie, jusque dans l'éternité. Ah, il y aurait de quoi crier de joie. Si la terre et les montagnes peuvent le faire, bah, les racheter encore plus. Puis les versets 14 et 15, une des raisons. Pour cela, c'est l'amour indéfectible de Dieu. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Et même si elle oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Voilà. On peut dire en quelque sorte que nos noms sont gravés sur la main de Jésus. C'est vraiment un amour sans faille. Donc nous n'avons pas à mettre en doute l'amour de Dieu envers nous, quoi qu'il nous arrive. Nous savons qu'on va passer par des moments difficiles dans la vie. Bien sûr, il y a un moment où on pleure et un moment qu'on est dans la joie. Mais moi, je pense que même dans les pleurs, avec le Seigneur, il y a une joie profonde qui demeure. Je pense. Parce que le Seigneur ne nous oublie pas. Il dit, même une femme n'oublierait pas l'enfant qu'elle allaite. Et même si c'était le cas, moi, je ne t'oublierai pas. Et pour terminer, versets 20 et 23, on voit que le peuple de Dieu sera nombreux. Ils te répéteront, ces fils dont tu avais été privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'installer. Et tu diras dans ton cœur, qui m'a donné ces fils? J'étais privé d'enfants, j'étais stérile, j'étais en exil, mis à l'écart. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceci, où étaient-ils? Mais voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je lèverai ma main en direction des nations, je dresserai mon étendard pour les peuples. Ils amèneront tes fils en les tenant dans les bras et porteront tes filles sur leurs épaules. Tes rois seront tes pères adoptifs et leurs princes tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, les visages contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds. Ainsi tu reconnaîtras que je suis l'Éternel et que ceux qui comptent sur moi ne seront pas couverts de honte. C'est un texte un petit peu compliqué à comprendre, mais mettons-le d'abord dans le contexte. C'est le contexte de ceux qui étaient restés à Jérusalem, qui disent, bon, on n'est pas très nombreux. Mais, en fait, oui, le peuple va revenir. Les rois et les princes vont leur permettre de revenir. Mais il va plus loin que ça, dans le sens symbolique, ils vont revenir avec. C'est les princes et les rois vont revenir avec le peuple d'Israël. Et de la même façon que lorsque le peuple juif revient à l'Éternel, des personnes de toutes les nations vont le faire aussi. Ils vont venir parce que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et donc des peuples vont se tourner vers le Seigneur. Moi, je suis toujours absolument étonné. J'aime bien lire des histoires missionnaires, de savoir ce qui se passe dans le monde. Certes, dans certains pays, les chrétiens sont persécutés de toutes les manières. Mais l'évangile progresse. On m'a dit une fois, j'ai jamais pu faire le calcul, mais on m'a dit qu'il y a autant de chrétiens vivant aujourd'hui dans le monde que l'ensemble des chrétiens qui ont vécu depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Tellement il y a des personnes dans tous les pays qui se tournent vers le Seigneur. C'est notre pauvre Europe qui en est le plus privée. Donc ça veut dire que nous avons la grande joie de pouvoir annoncer l'évangile là où c'est nécessaire. Comme Paul a dit, je ne prêche pas l'évangile là où il a déjà été annoncé. Ben nous en Europe, c'est bien, parce que l'évangile n'est plus annoncé, donc voilà, on a le champ libre pour annoncer l'évangile. Et c'est pour cela que dès le début de ce culte jusqu'à maintenant, je dis voilà, c'est Jésus qui est la lumière des nations. Toutes les nations de la terre vont trouver leur salut en lui, dans ce serviteur souffrant. Donc voilà ce que j'avais un peu envie de partager avec vous ce matin, et donc de rappeler que dans les deux chants que nous avons lus, les deux chants du serviteur, chapitre 42 et 49, la même expression, que le serviteur est la lumière des nations. Prions. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle qui est proposée à tout le monde. Nous voulons prier pour notre pays où les gens sont souvent égoïstes, pensent qu'à eux-mêmes, ils ont peur de l'avenir, que ce soit pour des questions matérielles ou que ce soit à cause de problèmes écologiques. Seigneur, nous voulons prier que dans cette situation, que la lumière de l'Évangile puisse briller et que beaucoup de personnes se tournent vers toi. Seigneur, donne-nous d'être confiants en toi, d'avoir de l'assurance pour parler quand tu nous en donnes l'occasion, pour que des personnes sachent que tu es vivant et que tu es le seul sauveur et que Dieu veut les accompagner dans la vie comme dans la mort. Nous le prions pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.